positive.
Photographie, sculpture,
peinture,
dessin.
Expositive pour vous donner à voir.
Bonjour et bienvenue dans Expositive. Écoutez voir, Expositive, c'est l'émission qui vous emmène à la découverte de l'univers d'une artiste à travers ses propres mots. Aujourd'hui, un nouvel entretien réalisé à l'atelier Bletterie, fin janvier 2026. Je laisse l'artiste se présenter.
Bonjour, je m'appelle Safa, je suis artiste plasticienne. Ma pratique, elle est principalement focalisée sur celle du dessin, majoritairement au crayon de couleur aujourd'hui. C'est une pratique qui va être très lente, très répétitive, qui va me permettre une plongée dans mes mondes intérieurs, dans lesquels je vais pouvoir sourcer une forme de résilience dans ce contexte apocalyptique mondial contemporain. Puisque une fois que je suis dans ces fameux mondes intérieurs, je vais être dans un espace où le mental se met de côté et où c'est vraiment la couleur, la forme, la texture qui va devenir un langage de transmutation. Et sinon, je suis franco-marocaine. J'aime bien le dire parce que pour moi, le travail que je fais, c'est aussi une manière d'hybrider. Et je me considère comme un hybride de différentes cultures qui parfois se ressemblent mais souvent s'entrechoquent. Et c'est finalement une manière pour moi de rencontrer ce que je suis en dehors des cases culturelles, mais dans un espace autre que celui dans lequel on circule le jour.
Puisque là, le mot jour vient d'être prononcé et qu'on a parlé de tréfonds intérieurs, je voudrais dire qu'on n'est pas dans un univers nuit, quoi. C'est pas sombre du tout, la traduction graphique de la pratique qui a été décrite. Il y a du blanc qui est préservé, le blanc du fond, puisqu'on peut travailler léger au crayon de couleur. On n'est pas dans un langage graphique qui va être descriptif de l'abîme, quoi.
C'est pour ça que je parle de transmutation, parce qu'il y a vraiment un aspect dans ma pratique qui, moi, me permet d'aller au-delà de tout ce qui paraît insurmontable. Et d'ailleurs, il y a un mot que j'aime utiliser pour parler de cette notion de monde imaginaire, ou de monde intérieur, c'est le mot paracosme, qui est un mot qui est utilisé pour justement décrire un monde intérieur organisé pour survivre à ce qu'on n'arrive pas à surmonter en fait dans la vie. Et c'est un monde qui s'organise depuis l'enfance, dans lequel on peut développer des amis imaginaires, dans lequel il va y avoir une véritable géographie. On sait où on se situe dedans. C'était le cas pour Tolkien, par exemple. Et finalement, voilà, c'est un espace salutaire pour pouvoir revenir dans cette existence et l'aborder avec un espace plus dégagé, justement.
On va revenir peut-être sur comment ça se traduit graphiquement, parce que là, moi, je vois deux langages graphiques proches, mais quand même distincts, et deux formats aussi qui sont différents. Donc, paracosme a été défini, décrit, explicité, mais là, par exemple, c'est pas cartographique non plus ce qu'on voit. En fait, ce qu'il décrit mieux dans ce qui a été dit, c'est le côté de la pratique, c'est la répétition peut-être qui éclaire le plus.
Cette série, je l'appelle les dessins éthers. Ce sont des dessins qui sont composés de petits points accumulés noirs à l'encre de Chine sur du papier. En fait, cette série, je l'ai commencée en 2016, après avoir effectué une retraite de méditation silencieuse de plusieurs jours. À la suite de cette retraite, j'ai plus jamais vécu mon corps de la même manière. La consigne était d'observer les sensations sur le corps de manière extrêmement minutieuse, et on faisait ça de 5h du matin à 21h. Tous les jours, et ça pouvait être sur une période de 6 jours, et j'ai fait d'autres retraites qui ont duré 10 jours. Ce qui est curieux, c'est que je me suis rendu compte à travers ces expériences à quel point la façon dont les sensations sont structurées, en tout cas de la manière dont moi je les percevais, dans cette précision chirurgicale, c'est la même manière dont les plantes, les rochers, les paysages vont être structurés aussi. En fait, il peut même y avoir des images qui viennent de manière un petit peu automatique. On appelle ça des images hypnagogiques. Quand on se met à méditer, en fait, c'est un petit peu cet entre-deux-là que j'ai voulu approcher, c'est-à-dire des dessins qui... On ne sait pas trop si ce sont des roches, on ne sait pas trop si ce sont des plantes. Et en plus de ça, il faut quand même s'en approcher pour voir comment c'est structuré. Parce que de loin, on aperçoit une forme avec des zones d'ombre légères. Mais de près, on voit une accumulation de points qui, en fait, pourraient se dissoudre s'il y avait un mouvement qui les permettait de s'animer, quoi.
Quand on regarde de loin, on a des niveaux de gris. Ouais. Et quand on s'approche, on se rend compte que tous les points sont du même noir et que c'est la taille et leur densité qui fait les nuances de gris. La lecture d'image aujourd'hui, où on sait que si on zoome trop, ça va être pixelisé. Puis il y a aussi, par exemple, quand on regarde de près du papier ou du tissu, on se rend compte de la structure lacunaire de la matière.
C'est la rencontre de la trame dans un voyage vers l'infiniment petit, où d'un seul coup, on se rend compte que dans cet infiniment petit, il y a une immensité.
Il y a l'espace entre les choses, mais c'est aussi que aujourd'hui, on le sait, que dans notre structure atomique, les électrons sont mobiles, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on va regarder comme fixes, et en fait, on sait qu'ils sont dans un mouvement perpétuel. Et on est nous-mêmes dans un mouvement perpétuel, parce qu'on est tout le temps en train de renouveler nos cellules. Le cerveau, ils ont l'habitude de chercher à reconnaître des formes familières, et donc oui, si on cherchait quelque chose du règne végétal ou du minéral, etc., on ne sait pas à quelle échelle on a affaire, on ne sait pas si on est sous microscope ou voilà, on ne sait pas si le grain de l'image, donc les points qu'on regarde, ils viennent d'une qualité de l'image qui serait pixelisée ou de... Enfin voilà, pour les différentes images qu'on peut avoir de l'idée de changement d'échelle. Il y a aussi la place justement que ça peut laisser à cette distance par rapport à nos cerveaux qui cherchent à reconnaître du déjà connu, voire à se reconnaître soi-même en fait dans l'image et d'accepter aussi une proposition abstraite.
Ouais, c'est ça. En fait, c'est vraiment notre expérience d'humain qui fait qu'on structure les choses dans l'espace et qu'on leur donne une taille et une forme. Quand on regarde son corps, quand on observe voilà, ces sensations qui sont en perpétuel mouvement et intriquement liées avec les émotions aussi, avec les états d'âme, et tout ça, ça bouge. Et en fait, quand on les observe de manière comme ça, très très précise, au bout d'un moment, on se rend compte que c'est le même type de danse que ce qu'il va y avoir autour, finalement. Que c'est dans un grand tout et que...
Si on va au bout de ce que j'évoquais tout à l'heure, toutes les matières sont lacunaires, il y a du vide, du différentes tailles entre n'importe quelle sorte d'atome, mais on est aussi beaucoup fait de même genre d'atome qu'une fleur, que voilà. On est aussi mu de la même façon par des nécessités de renouvellement cellulaire. Je ne l'ai pas dit, c'est des formes enchâssées, concentriques, qui évoquent quand même pas des cercles, parce qu'il y a une irrégularité, mais on est sur des formes concentriques. Et donc oui, on peut avoir une image de quelque chose de floral, mais ce serait un seul pétale continu. C'est pas plusieurs pétales pour former un cercle. On a vraiment la sensation de quelque chose d'annelé. Donc ça peut évoquer aussi des choses plus subaquatiques. Ça peut évoquer des parties du corps ou d'autres animaux qu'humains, etc. Et on a aussi le rapport à des choses beaucoup plus grandes, parce que plein de petits points qui forment des constellations ou des nébuleuses, ou etc. Parce qu'il y a ce côté aussi nuageux par rapport à la différence de densité. On peut imaginer du nuage cosmique, quoi. Là, on parlait tout à l'heure du cosmos interne. Il y a aussi l'imaginaire qu'on peut avoir d'images de l'espace, quoi.
Ce qui est aussi important de rappeler, c'est que dans la façon dont ces dessins émergent, donc encore une fois, on est vraiment dans la répétition d'un petit point à côté d'un petit point, à côté d'un petit point, à côté d'un petit point. En fait, cette répétition, elle va créer une forme de transe qui, finalement, moi, va m'amener à placer les points de manière à ce que ça a un effet sur mon corps, pour le détendre. Parce que dans la pratique artistique, j'ai remarqué que voilà, quand j'ai une intention intellectuelle un peu trop forte, je vais sentir beaucoup, beaucoup de crispation et que finalement, il y a vraiment une affaire d'instant à respecter. Et c'est un petit peu cette relation-là que j'essaye de développer avec moi-même dans la pratique du dessin. En fait, c'est de la même manière que ce serait une pratique méditative. Et en fait, c'est comme ça que les formes émergent. Et je crois que d'une certaine manière, regarder certaines formes forme nous fait du bien, regarder d'autres formes nous fait moins du bien et parfois même nous agresse. Bah, ma façon de dessiner, elle est toujours dans une intention de me recalibrer, de me recentrer, d'adoucir aussi des flux de pensée qui parfois sont trop agressifs. Et ça me mène automatiquement à choisir des formes qui se rapprochent du grand végétal, du petit végétal, du minéral, d'un coquillage. Parce que regarder ça m'aurait fait du bien, alors finalement le former me le fait aussi. Et c'est très lent comme pratique, ça prend plusieurs heures. Donc j'ai même pas finalement le temps de choisir que ça prendra telle forme ou telle forme en fait. Et je suis un petit peu comme une fourmi qui construit sa galerie en fait. Le dessin se creuse de lui-même.
C'est une apparition donc.
Ouais, c'est une apparition, on pourrait le dire.
Lors de chaque entretien, je demande à l'artiste de choisir sa pause musicale. Le choix de Safa Mouattassim s'est porté sur Swing Low Forest Moon de Lo Fang. C'était Swing Low Forest Moon, le choix musical de Safa qu'on retrouve tout de suite.
Le crayon couleur, moi je l'utilise depuis 3 ans. C'est des luminances de Carandage, c'est des crayons avec un pigment qui est très intense, avec une qualité musée et qui coûte très cher. Je le dis parce que ça a du sens dans la façon dont j'ai relationné avec la couleur. Parce qu'au début, quand je les achetais, comme je n'avais pas forcément les moyens d'en acheter beaucoup, il fallait que je choisisse les couleurs avec lesquelles j'avais besoin de travailler. Donc j'ai commencé dans un premier temps avec 4 couleurs avec qui j'avais envie de passer du temps. Et après, petit à petit, ça m'a permis de passer des moments privilégiés avec la couleur et de développer une vraie relation avec elle et une relation qui est émotionnelle tout autant. Là, il y a en particulier 3 dessins, les Bains Aurores, les Délivrées et les Silencieuses. Ça, ce sont des dessins qui m'ont guéri d'un chagrin d'amour. En fait, ce sont du coup des formes organiques peuvent ressembler à des dunes au bord de la mer à l'île de Ré. Quand j'ai commencé à faire ces formes, à développer cette espèce de forme, c'était particulièrement à l'île de Ré quand je vivais là-bas. Donc c'est entre la fleur, le champ de dunes, le corail, voilà, c'est une forme hybride.
J'ai vécu dans un espace moins maritime, plus montagneux ou forestier. Et moi, ça m'évoque la lande, les anciens pâturages désaffectés qui sont gagnés par le genêt. On n'est pas dans le vert du genêt, mais je vois une succession de buissons de genêt, en fait, battus par le vent. Parce qu'il y a le mouvement qui est là. Il y a l'accumulation à deux niveaux. Il y a l'accumulation des traits qui va former ou une forme donc, d'une aire ou de buisson. Ça peut évoquer aussi... Moi, je ressens vraiment le mouvement qui serait frappé par le vent à cause du mouvement du geste répété et qui passe par plusieurs couleurs. Donc, la précision du geste, ça doit être quand même assez intense puisqu'on a un dégradé du pied de la plante. Et c'est pour ça que je pense aussi je vois le genêt parce que c'est pas juste... au pied, on est à l'ombre de ce qui serait la canopée du petit buisson, mais c'est aussi qu'au pied, on est sur du ligneux. C'est pour ça, je pense, que c'est celui du centre qui me renvoie ça le plus fort. Donc, on est sur une teinte brune. Et plus on monte, plus on va avoir le vert de la partie plus jeune de la plante. Et aussi la partie plus souple qui va d'autant plus bouger dans le vent. Ouais. Les trois dessins, on retrouve ça. Alors, pas forcément la couleur la plus sombre au pied. Sur le troisième dessin, la couleur la plus sombre, on la retrouve plus souvent sur l'extrémité. Mais voilà, il y a ce travail de l'accumulation de traits sur les différentes couleurs convoquées avec un dégradé. Donc, quand même, le plus souvent, la couleur la plus sombre en bas et la couleur la plus... pas forcément la plus claire, mais en tout cas, on a une évolution qui passe par... on passe par quatre teintes, en fait, assez visibles avant d'arriver à la pointe. Et il y a aussi, comme la zone de timidité qu'il y a entre certains arbres, il y a du blanc qui est préservé entre, donc, d'une dune ou d'un bosquet à l'autre.
Pour moi, ce sont, voilà, un petit peu comme des plantes... pelage, plumage, coraux, champs de stipa, qui finalement sont la matérialisation d'une transmutation émotionnelle. Et c'est vraiment la couleur et la forme qui accompagnent la fin d'une émotion. Et ce qui est intéressant dans la durée de ma pratique, c'est que souvent, ce sont des dessins qui vont commencer avec une émotion qui vient d'arriver et qui est souvent une émotion en lien avec la tristesse ou le chagrin. Et... dessiner va devenir un réconfort et je sais exactement quelle couleur choisir pour transmuter ce chagrin ou cette colère ou ce vécu désagréable. Et à la fin, ça s'arrête et on passe à une émotion différente. Il y a un travail d'écriture aussi qui va avec tout ça. Le travail du dessin m'aide à organiser mes pensées. Et de ces pensées vont découler des phrases qui ont une certaine résonance, qui, moi, me permettent de donner aussi un élan à trouver un titre à une série ou à trouver un titre à une œuvre. Et ce sont des textes que j'organise sur différents supports, avec différents médiums. Il y aura des textes qui seront présentés, qui seront installés à côté des dessins. Et puis après... c'est des choses qui sont aussi disponibles sur mes différents canaux, sur mon site web, mon compte Instagram. Pour mon site web, c'est safmoat.com et mon compte Instagram, c'est safmoat.
Et ben merci beaucoup.
Ben merci à toi.
J'espère que cet entretien vous aura donné envie de découvrir plus avant l'univers de Safamoah Tassim. Pour ce faire, vous pouvez donc suivre le chemin vers les pages qu'elle vient de vous donner. Et en ce moment même, depuis le 30 janvier et jusqu'au 8 mars, vous pouvez découvrir ses travaux en vitrine de l'atelier Bléterie. Et si vous avez l'occasion de passer régulièrement dans les rues de La Rochelle, n'hésitez pas à y repasser puisque l'installation va évoluer au cours de la période. Si vous n'avez pas eu le temps de noter ces informations, si vous avez raté le début de cette émission, elle est peut-être encore diffusée ou rediffusée sur l'une des radios associatives qui nous soutiennent. Pour retrouver tous les jours et heures de diffusion, rendez-vous sur le www.facebook.com/expositive. À cette page, vous trouverez aussi une publication dédiée à la présente émission avec tous les liens utiles prêts à cliquer. Expositive est une émission aujourd'hui entièrement produite par Yann Sirota. Elle a été créée à l'origine avec la complicité de Clara Giannichini, qui reste l'autrice de son générique. Un générique qui doit beaucoup au groupe Bal en Chantier et au morceau Gotan Vals pour la musique. A bientôt pour une prochaine édition d'Expositive.
Expositive. Photographie, culture, peinture.
Dessin.
Expositive pour vous donner à voir.